Lors des dernières rencontres Réclame de Field Sud-Est, les personnes présentes ont eu envie de créer un support de diffusion autre que l'écrit. On s'est donc lancé dans une émission de radio qui nous a inspiré ce titre. Entre Pinard et Action Directe, la tête dans la terre et les pieds dans les étoiles.
Difficile de définir Réclame the Field, dont on parle souvent comme une constellation composée d'étoiles. Ce réseau qui nous rassemble autour de sujets de notre quotidien et de nos choix d'engagement. On se parle de paysannerie, comment on la vit, de la mise en commun de nos outils et pratiques agricoles, de la difficulté de s'installer, de l'accaparement des terres, entre autres. Comment ensemble on résiste et on s'organise?
Quoi RTF? Quoi qu'il en soit, il y a toujours une dimension qui est intéressante, c'est de ne pas être isolé. RTF, ça réunit des gens avec lesquels on a quand même des questionnements proches. Et ben voilà, ça donne envie de les résoudre ensemble, côté d'être dans une structure collective. Et ce que j'apprécie pour l'instant, ben, ça fait pas très longtemps que je connais RTF en même temps, mais c'est ce côté très horizontal, très ouvert, pas forcément institutionnel non plus.
Bah, le fait de partager avec des personnes qui sont pas sur mon lieu de vie ou qui sont pas dans mon entourage proche, des discussions et des réflexions qui me parlent et qui me portent tant sur l'agricole pure, que sur tout ce qui dépasse en fait la question agricole du système de domination. Ouais, d'avoir toutes ces discussions-là, parce que c'est des discussions qu'on a en interne sur le lieu, mais c'est toujours vachement riche aussi de s'apercevoir que ça fonctionne différemment d'autre part, de se nourrir aussi des différentes énergies qu'il peut y avoir, de dire en fait que nous, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, moi en tout cas sur ma ferme, et, ça résonne en fait sur plein d'autres lieux aussi. Moi en tout cas, de venir à ces rencontres, ça me donne la patate, quoi.
Étant déjà proche de valeurs ou d'idéaux anti-autoritaires sur une pensée qui s'articule au niveau horizontal, où l'entraide et la solidarité, ça prime avant tout, je me retrouve à Reclaim the Field au sud-est, quoi. C'est ça, c'est un peu une convergence de différentes trucs que j'ai en moi et qui me ramène ici, quoi. Et j'y suis mieux que dans d'autres organisations, du coup, paysannes, syndicales ou associatives ou autres.
Ça crée des liens où on se dit, tiens, à un moment donné, s'il y a besoin d'impulser quelque chose, ça va pouvoir aboutir, plus que dans une autre logique où c'est l'institution et la légalité qui va primer sur comment tu t'organises. Ici, c'est plus la motivation et les expériences de chacun dans des luttes à droite et à gauche.
Disant donc la simple histoire, chantant nos cœurs et nos cerveaux, l'exquise douceur de la Loire et la bonté des vins nouveaux. Paysans dont la simple histoire chante en nos cœurs et nos cerveaux, l'exquise douceur de la Loire et la bonté des vins nouveaux. Allons-nous esclaves placides dans un sillon où le sang lui rester à piétiner au bruit des Marseillaises fratricides. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots. Marchons, marchons, en des sillons plus larges et plus beaux. À la clarté des soirs sans voile, regardons en face les cieux, cimetière fleuri d'étoiles, où nous enterrerons les dieux. À la clarté des soirs sans voile, regardons en face les cieux, cimetière fleuri d'étoiles, où nous enterrerons les dieux. Car il faudra qu'on les enterre, ces dieux féroces et maudits, qui sous espoir de paradis, firent de l'enfer sur la terre. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots.
Pour l'essentiel, les paysages de notre territoire ont été façonnés par ces paysannes et paysans qui aujourd'hui disparaissent, tandis que l'environnement se dégrade et se désertifie. C'est là une rupture par rapport aux périodes antérieures.
Car des siècles durant, la puissance des seigneurs puis la richesse de l'État ont dépendu en grande partie de l'activité de ces millions de travailleurs de la terre, au premier chef exposés à l'impôt. De l'an 1000 au milieu du 19e siècle, ils ont occupé une place centrale dans la société française. Somme toute, les paysannes et paysans d'aujourd'hui, bien que marginalisés, perpétuent les savoir-faire et façonnent une paysannerie propre à notre époque.
Dans ma tête, le mot paysan a plus une connotation liée à quelqu'un qui a une ferme qui est un peu plus autonome, qui essaye un peu plus de respecter la terre. C'est vrai que maintenant on parle d'exploitant agricole. C'est un terme qui est un peu bizarre, moi qui ne me convient pas trop. J'ai pas envie d'exploiter la terre en fait, j'ai envie de faire pousser des légumes ou des arbres ou des céréales tout en maintenant des bonnes conditions dans le sol et en, même en l'améliorant plutôt qu'en exploitant un milieu. Effectivement, maintenant on est exploitant agricole, on n'est plus paysan, c'est-à-dire les gens qui font le paysage, qui font la beauté des paysages avec des haies, des parcelles diversifiées, des animaux. Bon, c'est encore le cas quand même, hein. Il y a encore des très belles parcelles agricoles en France, mais on se retrouve beaucoup avec des zones où il y a des... C'est plus faire de paysage que de faire 100 hectares d'un seul tenant de blé ou 100 hectares de pâture sans aucune haie, sans aucun arbre, sans aucun oiseau, sans aucun insecte. Pour moi, oui, c'est pas un paysan au sens où on parle d'un paysan qui fabrique le pays, qui fabrique du paysage.
Je suis de famille paysanne, donc la question du devenir de la paysannerie, elle me concerne. Je sais pas, c'est ma culture.
Pour moi, c'est un peu différent parce que je ne suis pas issu d'une famille de paysans. Je cultive des terres parce que c'est là que je me sens bien. Bosser dans un cadre citadin, institutionnel, dans une relation à des subventions, à tout ça, tu peux le retrouver dans une installation paysanne, par exemple. Mais ce n'est pas ce qui me plaît, ce n'est pas ce qui me convient.
Pour le moment, je ne suis pas paysanne boulangère parce que je ne cultive pas moi-même mes céréales. Je me considère paysanne parce que du coup, j'ai toujours un pied dans le maraîchage. Mais j'ai passé le CAP, c'est-à-dire que j'ai appris à faire du pain blanc à la levure avec des farines bourrées d'additifs et ultra ramifiées. Donc j'ai dû apprendre à faire quelque chose que je ne referai plus jamais pour pouvoir vendre légalement mon pain au levain. Mais à terme, j'aimerais bien aller du grain au pain à partir de mes blés que je choisis, que je sélectionne, que je cultive ou que je fais cultiver par quelqu'un de confiance, que je moue par la suite et que je panifie. Mais là, ne pouvant pas le faire pour le moment, mais je m'adresse à un meunier qui est près de chez moi, en fait, qui est dans l'Aude, et qui, je sais, travaille en bio, je sais, travaille avec des variétés anciennes, je sais qu'il récupère aussi lui-même ses semences, et je sais aussi qu'il travaille sur meule de pierre et donc du coup a une technique de mouture qui m'intéresse et aussi une éthique culturelle et de conservation des semences à laquelle j'adhère.
Paysanne, mais pas que. C'est une partie de moi qui est récente parce que je n'ai pas toujours baigné dans le milieu rural et agricole. Ça prend aujourd'hui une place qui est super importante dans ma vie. Mais j'ai grandi en ville et du coup toutes les luttes à caractère plus social continuent de m'habiter et le fait d'habiter à la campagne m'a éloignée en fait un peu de toutes ces luttes-là. Du coup je vois un vrai intérêt à ce lien ville-campagne en fait, à réfléchir un peu à comment est-ce qu'on se... Enfin pratiquement, voilà, ben maintenant je produis du pain, de la bouffe, comment est-ce qu'on peut être en soutien par rapport à des luttes urbaines où il y aurait besoin de pouvoir soutenir des grèves, des choses comme ça, et par ailleurs de pouvoir aussi être base arrière ou refuge pour des personnes en lutte ou des personnes un peu fragilisées par des contextes urbains, de pouvoir aussi venir se réfugier à la campagne. Du coup, paysanne, mais pas que, quoi.
It is the prison system, the courts, and what have you. This is a state. It is a repressive organization. But the state... And you, well, you know, you've got to have the police, because if there were no police, look at what you'd be doing to yourselves. You'd be killing each other if there were no police. But the reality is, the police become necessary in human society. Only at that juncture in human society, where it is split between those who have and those who ain't got.
I throw a Molotov cocktail at the precinct, you know how we think. Organize the hood under I Ching banners. Red, black, and green instead of gang bandanas. FBI spying on us through the radio antennas. And I'm hitting cameras in the street like watching society.
with no respect for the people's right to privacy. I take a slug for the cause like Huey P. While all you fake niggas try to copy Master P. I wanna be free to live, able to have what I need to live. Bring the power back to the street where the people live. We sick of working for crumbs and filling up the prisons, dying over money and relying on religion for help. We do for self like ants in a colony. Organize the wealth into a socialist economy, a way of life based off the common needs. And all my comrades is ready, we just spreading the seed.
The average black male live a third of his life in a jail cell, cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice, and the women don't never get respected, and the problems don't never get solved, and the jobs don't never pay enough, so the rent always be late. Can you relate? We living in a no more bondage.
En fait, c'est que ouais, les structures juridiques aussi, mine de rien, sont faites pour les gros. Et les seuils d'assujettissement, les surfaces minimums d'installation pour avoir droit à un statut d'agriculteur, elles ont été faites, si je me rappelle bien, à l'après-guerre. En fait, elles varient en fonction des activités agricoles exercées et aussi en fonction des départements. À l'après-guerre, on a regardé, tiens, dans telle région, quelle surface minimum il faudrait pour qu'un maraîcher puisse avoir un revenu suffisant. Tac, autant, combien pour le vigneron, combien pour l'éleveur. L'éleveur, c'est pas une surface, c'est un nombre d'animaux. Et là, par exemple, on est dans l'Aude, dans une région ultra viticole. Et on a estimé, il y a une cinquantaine d'années, qu'il fallait une surface, ben nous, on va dire gigantesque, pour nous, en tant que maraîchers qui travaillons quasiment exclusivement à la main, il faudrait 2 hectares en fait, de surface minimum d'installation pour avoir un statut d'agriculteur. Bah, on en est loin. On ne peut pas avoir un vrai statut d'agriculteur. Du coup, c'est un statut un peu intermédiaire, bâtard, de cotisant solidaire.
On a instauré la PAC, notamment, pour aider les agriculteurs, mais on se retrouve avec des céréaliers, rentiers céréaliers, qui touchent une prime à l'hectare. Et actuellement, ils sont gestionnaires d'hectares, en fait. Mais si on enlèverait la PAC, bon, bah, le système s'écroulerait. Voilà.
Et on s'est retrouvé face à des problèmes, je dirais, de malnutrition et de malbouffe, en fait. On s'en est rendu compte, en fait, que ça nous rendait malades, que l'industrialisation, les additifs alimentaires, les légumes produits n'importe comment, booster les OGM, ça posait problème. Ce qu'on a fait avec les blés aussi, c'est une catastrophe, de cultiver des blés de plus en plus chargés en gluten, d'ajouter tout un tas d'additifs dans la farine avant de les vendre aux boulangers conventionnels, qui n'y peuvent rien, d'ailleurs, non plus. Donc on a toute une conscience actuellement qui, j'ai l'impression, qui se développe de mieux manger, mieux vivre.
Que l'on se vende pour l'industrie agroalimentaire ou sur le marché du coin, on nous impose des normes à respecter parce que ce qui est vivant est trop incontrôlable. Il faut pasteuriser et javeliser les fromages, traiter voire irradier les fruits. Même le taux de sucre de la confiture doit être mesuré précisément. Nos bêtes, il faut qu'on les amène dans les abattoirs pour que l'on contrôle leur traçabilité et que des machines les massacrent en nombre. Il faut aussi les faire inséminer artificiellement. On nous vend la poudre blanche, la poudre bleue, la poudre jaune, pour accroître le rendement des terres, empoisonner les plantes et les animaux nuisibles. Il est avéré que c'est aussi du poison pour nous, pour la terre et pour tout ce qui reste vivant.
On nous vante le mérite du bio. Un nouveau marché pour lequel il faut revenir à ces méthodes qu'on nous avait présentées comme dépassées, mais qui permettent de vendre plus cher pour que les riches, eux, ne s'empoisonnent pas. Il faut intégrer soit des labels, pour lesquels il faut payer pour pouvoir se faire contrôler, soit des mentions, pour autogérer notre propre contrôle et notre propre marketing. Des solutions éco-industrielles pour que le bio lui aussi soit productif et rentable. Et nous restons encore une fois sur le carreau. Allons-nous rester éternellement soumis ? Nous ne voulons plus, nous ne voulons pas être ces paysans-là, parce que nous ne voulons pas de ce monde-là.
Ne soyons pas leurs paysans, pas plus que leurs ouvriers, leurs routiers, leurs maçons, leurs employés, leurs prostituées, ni les allocataires ou les mendiants de leurs quelques miettes.
Cultivons la révolte partout sur cette terre. Faisons partie de ceux qui se battent contre ce que l'on nous présente comme indépassable. Le cul par terre, la tête dans les étoiles.
Hey.
soit dans la vallée de la Durance, la Croix, l'Huberon, où je suis, quoi. Ailleurs dans le sud-est et ailleurs dans le monde, il y a une réalité, c'est que la terre agricole, enfin, la terre qui peut nourrir, elle est sacrifiée. Et on a envie de lutter contre ça, enfin, on n'a pas envie de laisser partir cette possibilité d'être collectivement et individuellement autonome, parce que c'est ça la réalité. Enfin, je parlais de paysannerie, je ne veux pas non plus m'enfermer dans un truc, quoi. Mais ce que je ressens, c'est que la terre peut nourrir tout le monde. Elle peut procurer autre chose que de la bouffe, d'ailleurs. Hein. On peut vraiment chacun devenir beaucoup plus libre dans nos vies, en ayant un lien très fort avec la terre. Et ça disparaît. Bon, ça fait longtemps que c'est battu en brèche, cette possibilité d'être autonome. Mais là, actuellement, enfin, quand même, partout, c'est du béton, c'est des routes, c'est des hôtels de luxe, c'est des golfs, enfin, ça n'a rien à voir avec ce que ça devrait être, il me semble, quoi. Il y a le monde paysan qui a s'emparé vraiment de cette lutte, mais c'est pas que le paysan, celui qui bosse la terre pour faire des légumes. C'est aussi rendre ben effectivement la cité, la ville, l'urbain, c'est l'urbanisme, c'est un fléau, quoi. Et la ruralité, c'est pas que être dans les légumes, c'est aussi faire vivre les campagnes autrement, quoi.
Écoute Nocturne du Cri du Loir. Une nuit de septembre dans le Luberon. Dernière rencontre RTF Sud-Est, dans le sud Luberon, a été consacrée à la rencontre de personnes impliquées dans des mobilisations locales contre la gentrification et l'accaparement des terres. À Montfuron, le projet inutile d'hôtellerie, de centre de remise en forme et de chasse s'implanterait dans la commune sur 500 hectares de bâtis, terres agricoles et forestières privées vendues pour 3 500 000 euros.
Ce projet à Montfuron, on en a entendu parler pour la première fois il y a, je crois déjà, 2 ans. Le fil de scier, le spa, la réserve de chasse, avec des sangliers, des mouflons, des cerfs médaillés d'or et d'argent, le spa en Richenau pour se remettre en forme, quand on a de l'argent. Avec des magnifiques images de lavande, parce que c'est très provençal. Des investissements qui montent au total à 35 millions d'euros sur 500 hectares. On a été quelques-uns, donc on va dire, bon, pour faire quelque chose. On a fait des réunions collectives à Mont-Justin, à Saint-Michel l'Observatoire, à Montfuron aussi, pour informer les gens. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, 80, 100 personnes, quoi. Enfin, donc c'est un projet qui est soutenu par la mairie de Montfuron. Il y a des gens bien sûr qui sont pour, parce qu'il faut bien trouver un moyen d'accueillir les nouveaux riches d'Inde et de je ne sais plus où. Ça, c'est les acheteurs, il y a un porteur de projet qui s'appelle Maxence Garangeau. Il porte des projets, il cherche des financeurs derrière. Donc là, il y a une société de financement qui est présentée dans le projet qui s'appelle Aerium, qui finance à 12 millions d'euros. Donc on a eu à peu près un an de bonne mobilisation, donc avec des gens qui sont venus aux réunions, qui étaient contre. On a fait une liste de diffusion, des informations. Et puis en fait, on s'est retrouvés à la fin à 4 à continuer à s'opposer à ce projet-là. Donc nous, on ne voulait pas... dire on ne veut pas de ça chez nous, quoi. Enfin, on veut de ça nulle part. Enfin, voilà, on ne voulait surtout pas mettre le côté territoire en avant, quoi. On a essayé de mettre en avant l'aberration du projet. Donc c'est 500 hectares, il y a 6 000 mètres carrés de bâti, il y a des étangs, il y aurait de quoi faire énormément de choses. Il y a de la forêt, il y a des terres agricoles, il y a des étangs, il y a des bâtiments. Nous, dans le coin, comme plein d'endroits, il y a plein de jeunes qui ont envie de s'installer, des jeunes qui ont envie de se loger, de vivre. Et on manque d'endroits, c'est cher, on était contre, point.
Non, mais 3,5 millions divisé en parcelle d'un hectare, il faut leur proposer un truc comme ça, il faut qu'ils bossent là-dessus, quoi.
Ah oui, non, mais ça, on y a pensé. Après, il faut trouver du monde, quoi. Quand même, 3,5 millions, j'ai calculé autrefois. Mais si on est 150, ça nous fait 20 000 euros chacun.
Oui, non, mais c'est évident, mais alors...
Ça devient possible, 20 000 euros chacun. Après, 150... Non, mais ça, bien sûr, on y a...
Mais c'est le seul... il faut proposer quelque chose contre, quoi. Si tu proposes rien contre, tu peux laisser faire.
Je te dis, moi, je préfère comment tu as présenté au début. Enfin, l'argument de dire... Ici, il y a des tas de gens qui veulent s'installer en agriculture, simplement se loger, simplement vivre. Mm. Et c'est pas la peine d'inventer un contre-projet.
Non, mais c'est ça le contre-projet.
Qui serait viable économiquement.
Ah ouais, non, mais ça, non, on veut
visé
pas.
Par le préfet, par la SAFER. Moi, mm. Ouais, ça m'intéresse pas en fait. Ou alors, il faut être tellement nombreux que t'es trop nombreux, quoi. Tu peux plus rien faire dessus.
Yeah, non, mais de toute façon.
Au niveau des recours légaux, juridiques, moyens de bloquer via des vices de procédure et autres, vous avez fait le tour.
Donc, il y a 25 parcelles de 5000 m² chacune qui sont en vente et qui construire leur villa dessus. Ces constructions-là, et en fait, c'est sur des terres agricoles, quoi. C'est pas du tout sur des terres constructibles. Et donc, il doit y avoir, pour que le projet se fasse, changement de PLU, là, de plan local d'urbanisme. Il y a un agriculteur qui est enclavé dans le projet, en fait, qui est là-dedans, lui, qui sait. Donc, a priori, le projet, en vue du plan d'occupation du sol, c'est pas possible. C'est pas possible. En vue de la charte du Luberon, c'est pas possible non plus.
Ça ressemble beaucoup quand même à tout plein de projets autour du luxe. Et c'est compliqué parce que, comme souvent ça se passe, ça a été le cas aussi pour tous les projets de Center Park, hein, que ce soit du coup à Chambaran ou même sur Poligny, ils ont le même problème, c'est qu'il faut arriver à trouver un autre argumentaire à développer contre aussi l'employabilité que ça permet d'avoir, ces trucs-là. Et je disais aussi, mais je comprends pas pourquoi le parc il se positionne pas plus, alors que peut-être aller aussi un peu plus les voir, parce qu'eux ils ont un levier du coup qui peut être intéressant pour bloquer. Pas mal de choses là-dessus, quoi.
Ouais, mais c'est le
plus
parc,
que là, ça ferme. Là, ça ferme, j'y crois pas du tout, parce que même s'ils prennent l'ensemble des terres, ça sera pas pour les petits paysans que ça ira. Le fonctionnement est habituel du coiffage à faire, d'aller à ceux qui est celui qui est le plus offrant. Et moi, ayant rien dans mes poches, c'est pas moi qui vais offrir beaucoup de choses, quoi.
Non, si on arrive à se bouger, à se remotiver, à faire quelque chose au printemps prochain, ou à un autre moment, l'appui de Reclaim the Fields et la participation des personnes de Reclaim the Fields. Si on organise quelque chose, ce sera tout à fait le bienvenu et ça peut être super chouette.
Sur la côte camarguaise, la plage de Pied-Manson serait une ou la dernière plage libre en France. Depuis l'année dernière, la rumeur de fermeture de la plage devient de plus en plus concrète, avec une pression sur les habitants par la préfecture et l'annonce de la construction d'un parking. Ce parking signerait la fin de cette plage historique, la faisant une nouvelle victime de la gentrification.
Mais en tout cas, il y a une rumeur qui a l'air plus sérieuse que les autres et qui vient de la préfecture, c'est-à-dire rendre impossible l'accès aux caravanes, aux voitures et aux camions et de construire un parking. Donc de rendre à cette plage l'aspect de toutes les plages ordinaires et donc supprimer de fait toute tentative de groupement, parce qu'on a une espèce de village de caravanes et de camions qui s'étend, je ne sais pas si vous imaginez pour ceux qui ne connaissent pas, sur 8 km de long. Ça s'inscrit dans cette tentative de supprimer un accès gratuit au littoral, parce que ce qui se passe, d'où la gendarmerie, d'où ces intimidations, puisque effectivement, normalement, il y avait une tolérance jusqu'à fin septembre, et cette année, à partir du 1er septembre, la gendarmerie a commencé à verbaliser, et des gens ont pris peur. Parce qu'effectivement, le grand problème de cette plage qui génère des milliers de venues, d'allées-venues permanentes, et des personnes qui s'installent pendant 5 mois avec leur caravane ou leur camion, le problème, c'est que effectivement, il n'y a pas d'informations réelles sur la légalité, puisque pour l'instant, c'est les salles de midi, ce qu'ils restent propriétaires. Donc on est dans un affrontement entre ce qui serait tout à fait privé, entre deux personnes, qui ça durerait depuis 40 ans, et ça aurait provoqué cette espèce d'ouverture, cette brèche incroyable, dans laquelle des milliers de personnes s'engouffrent chaque année, et qui réussissent à créer un village complètement troglodyte dont la vie quotidienne échappe mais à toute institution. Voilà. Parce que l'ambiance, elle est carrément popue pour une bonne partie de la plage, et puis elle est peut-être, je dirais, plus ou moins fortunée, c'est-à-dire qu'il y a une partie naturiste. C'est important parce que c'est les naturistes qui ont, eux, un accès absolument légal à la plage, c'est les seuls. Voilà. Tous les autres, ils sont dans la légalité la plus totale. Mais voilà, c'est vrai qu'une bonne partie de la plage, c'est les caravanes les unes contre les autres, et puis le boulevard du Pastis, etc.
Avec, quand tu vas ailleurs autour de la Méditerranée, maintenant, toutes ces plages fermées où tu dois payer un accès, ou même des plages, la multiplication des plages privées, et là, tu arrives, hop, tu rentres, tu poses ton camping-car, tu peux rester 4 mois, il n'y a personne qui te demande rien. En France, il y en a. Franchement, à part celle-là, je ne vois pas trop.
C'est un endroit, je pense, où vraiment. On peut essayer de travailler cette notion de gratuité, c'est-à-dire aussi de reculer au maximum le fric, puisque c'est pas que la gratuité. Là où c'est le plus intéressant à tourner, c'est vers l'autogestion, c'est-à-dire comment des milliers de gens s'auto-organisent et avec des relations globalement de fraternité et d'entraide. Et donc d'essayer de porter ça et dans la gratuité. Plus que le cabanon, parce que j'ai très peur que dans les occupants de cabanon, on trouve des petits provençalistes, enfin des gens qui ne m'intéressent pas du tout, avec un petit côté local, voire raciste, enfin j'ai pas du tout. L'affaire est déjà assez délicate, finalement. Donc, et là, on est en train de réfléchir à les fronts de l'action. Quand il y a un conflit, qu'est-ce qu'on fait? Une avancée qu'on a fait, qu'on a testée cette année, c'est qu'on y va à plusieurs. Il y a un problème, on n'y va jamais seul. On ne se retrouve jamais dans l'affrontement avec une personne. On y va toujours à 6, 7 hommes et femmes. Et on y va dans l'apaisement. Et on fait pression sur le gars, tu vois, pour lui dire, l'entourer bien, quoi, lui montrer que bon, on est solidaire, on est là, on habite là, on n'a pas envie de se faire casser les couilles par des gars qui débarquent et qui tiennent pas compte des autres. Tous les gens qui connaissent Marseille voient comment Marseille a changé. Moi, je l'ai vu. C'est-à-dire qu'on est vraiment on brade, l'espace il est bradé au profit du tourisme, puisque on n'arrive pas économiquement. Donc moi je pense que ça fait partie de ce mouvement-là, en fait. Donc toutes ces luttes, elles peuvent se coordonner ensemble, parce que tu vois, et même l'histoire du luxe, tu vois, je veux dire, là c'est drôle parce qu'on est dans le luxe et là pour le coup on est chez les pauvres, tu vois, parce
que, c'est l'antithèse,
tu vois, c'est l'antithèse, quasi.
Uptown and farming downtown, can't you see?
The money, ain't funny, y'all.
Money for the rich, but no money for you and for me.
The money, ain't funny, y'all.
Avis uptown and farming downtown, can't you see?
The money, ain't funny, y'all.
Money for the rich, but no money for you and for me.
The money, ain't funny, y'all.
False leaders do rise up every day. Fooling the people in various kinds of way. Tell them if they work, they'll get pay. Avis uptown and farming downtown, can't you see?
No money, ain't funny, y'all.
Money for the rich, but no money for you and for me.
No money, ain't funny, y'all.
If you think it's joke, I am heck. Just give uptown a check. If you see the dogs Avis uptown and farming downtown, can't you see?
No money, ain't funny, y'all.
Money for the rich, but no money for you and for me.
No money, ain't funny, y'all.
Mm-hmm.
pay. Out is uptown and from in downtown, can't you see?
No money, no money, and funny, y'all.
Money for the rich, but no money for you and for me.
No money, no money, and funny, y'all.
If you think it's joke, I am it.
I am it.
Just give uptown a check.
A check.
If you see the dogs doing that,
dogs,
you know that those people are sitting. Office uptown and from in downtown, can't you see?
No money, no money, ain't funny, y'all.
Money for the rich, but no money.
Pour lutter contre, on a besoin d'être ensemble. Pour nous, la richesse de ces rencontres, c'est justement de lier la question paysanne à la recherche collective d'autres formes de vie, de production, d'organisation, de relationnement, de prise de décision, entre bien d'autres.
Comment on invente nos vies en se libérant des schémas d'oppression ? Plus facile à penser qu'à animer au quotidien. Parmi d'autres, se pose la question de l'installation et la place de chacune et chacun dans un collectif paysan.
Parce que quand tu as commencé à parler pour monter un collectif, pour moi, il y a aussi cette question que je mets en question de la propriété privée et après aussi qu'est-ce que les personnes peuvent vraiment créer sur l'endroit. Et je trouve que c'est pas quelque chose de mauvaise de dire écoute, là il y a un four, c'est trop dommage, il roule une fois par semaine, et j'aimerais vraiment bien quelqu'un qui s'installe pour utiliser cette boulangerie et avoir peut-être de faire des trucs ensemble. Mais si tu le, je sais pas, si tu le prends plutôt de cette côté là ça me semble plus frais que de dire je veux monter un collectif, parce que pour monter un collectif, pour moi, il y a déjà plus de partage que sur des secteurs. Toi, tu as envie parce que tu dis que tu veux faire des choses culturelles, mais déjà ça, c'est aussi une place. C'est déjà des projets que tu as. Alors peut-être de plus chercher quelqu'un qui aurait envie d'avancer sur cette projet. Et en pas disant je veux monter un collectif, parce que si j'entends ça, c'est vraiment le truc OK. On se partage le lieu et on sort de la propriété privée.
Ça dépend ce qu'on collectivise aussi.
Ça, c'est clair.
C'est des échelles, des fois. Enfin, je sais pas, peut-être je parle pour toi, je suis pas sûr. Dans ce que j'entendais, peut-être pas la vision de ce que moi j'appelle collectif, mais il y a une volonté de collectiviser certaines choses, dont les outils, quoi. Concrètement. Ouais. De collectiviser un outil de production.
Mais c'est bien.
Moi, je trouve ça, par exemple, super positif. Même si ça sous-entend pour les personnes, par exemple, de se demander en termes de pérennité, de qu'est-ce que tu viens faire sur place, est-ce que c'est venir avec l'objectif de se développer dans une activité ? Et donc, du coup, à un moment donné, de trouver un moyen de s'installer concrètement, parce qu'il y aura la même question pour d'autres gens, qui vont peut-être avoir des enfants, peut-être avoir une vision à long terme. Du coup, comment ils s'approprient le lieu, et pas au sens propriété, mais au sens se sentir chez soi, au-delà du travail, dans la vie courante. Il y a ce truc-là. Et du coup, je me posais un petit peu la même question que sur est-ce que t'as envisagé la question carrément de soit proposer des places salariées, soit proposer à des gens de développer leur activité propre à partir de certains outils, que soit tu prêtes, soit tu mets en location, soit tu... Parce que c'est une porte d'entrée où du coup tu as des idées très claires de ce qui est du potentiel qui est là. Et donc en proposant un potentiel clair, il peut y avoir des gens pros qui veulent rentrer sur ce potentiel-là spécifiquement.
D'accord.
C'est une question, c'est pas une affirmation.
De revenir aussi au sein du groupe, de mon groupe, et de relayer un petit peu ce qui s'est passé. Ça permet que les uns les autres, on s'implique aussi sur des choses différentes, que ce soit sur le réseau de compagnonnage, voilà, c'est telle et telle personne, sur des actions en lien avec les semences, ou s'il faut faire des plans pour telle ou telle occupation ou mise en culture, voilà, ça va être telle ou telle personne. En fait, l'impression que dans notre collectif, en tout cas, RTF, ça résonne à plein d'endroits différents selon les personnes, selon les centres d'intérêt. Et qu'on n'est pas... Je me sens pas, moi... en mesure de porter tout ce qui émane de nos discussions. Mais par contre, quand je reviens au sein de mon groupe, on se répartit un peu les réflexions, les tâches, les envies, la mobilité pour participer à tel ou tel truc.
geste. Me précipitant comme un fou hors de l'horreur, je me retrouvais en dessus de moi, lévitant, tranquille, paisible, soudainement certain, prêt à détruire les incohérences de ce monde pour le ramener à son originelle splendeur. Est-ce pour cela que j'ai pu rappeler par les humains, obligé de jouer le jeu d'une société immonde? J'ai décidé d'être là en observateur. Plutôt que de m'enfermer dans vos pensées, je préfère lire dans vos gestes. Et s'il s'avère que je vous sente, c'est que j'aime vos odeurs. Plus que vos idées dictées, plus que vos certitudes en restent, plus que vos paroles qui mentent, ce que j'aime sont des rêveurs.
Bonus pour compléter cette déambulation sur Radio Diwa, 13 minutes qui nous viennent de A Radio, basé à Berlin. Il s'agit d'une interview en anglais faite avec un organisateur de RTF en Grande-Bretagne. Il y sera question du camp international en Irlande du Nord, de la relation entre souveraineté alimentaire et système pénitentiaire, ainsi que de l'abolition des prisons. Et ça date d'août 2015. Bonne écoute.
Sagen Sie jetzt mal bitte
Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell.
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchia!
In the following interview we made with an UK-based organizer from the Reclaim the Fields initiative, we talk about the planned international camp in North Wales, the relationship of food sovereignty in the prison system, and the topic of prison abolition as such.
I'm here with an organizer of the European-wide Reclaim the Fields initiative, and we will talk about the camp you are planning, but first off, we would like to know a bit more about the initiative. Maybe you could tell us something about that.
Yeah, so Reclaim the Fields is like an international network of collective projects and individuals of people who are involved in reclaiming food production. So we're explicitly anti-capitalist, and we try to combine food growing and struggles for access to land and food sovereignty with, you know, other forms of political resistance and solidarity. So we've been going since, well, for the last 10 years. We've had multiple gatherings and camps all over Europe, mainly Western Europe, but increasingly more into the East. People are involved in their own collective projects. So this might be a small squatted farm or a community garden. And generally we organize in countries and have our own smaller gatherings as well. And we sort of provide solidarity when we're in trouble. So say someone is facing eviction, then many people will come and work with them. And it's really nice for people who are living in the countryside, for example, and are isolated to come together with like politically like-minded people who share the same passions for kind of, yeah, I guess, social justice and food growing.
Well, now for the end of August, you're planning an international action camp. This sounds quite interesting. When will it be and what will it be about?
Yeah, so it's from the 28th of August, so Friday, until the 2nd of September. And the aim is to bring people together from all over Europe to support communities in the northwest of the UK and North Wales to fight this new mega prison which is being built, which I'll talk about shortly. But the aim of the camp is to have 3 days of workshops and skill shares, discussions, you know, activities with families, and then to have 2 days solid of different actions undertaken by affinity groups against the prison. And it's, yeah, we're camping at a anti-fracking site. So in the UK, where they want to do like fracking for gas, often communities will organise like protection camps to defend the land. So we will be at Boris Community Protection Camp, which is a small new camp that really needs support, and they're fighting like unconventional gas drilling in that area. They have many developments kind of imposed on them, so this is our way of giving solidarity. It's going to be really great, and it's going to be really important because the UK government is really interested in prison expansion, and this is a really visible show of resistance. There's going to be lots of ex-prisoners there, and talks by ex-prisoners, and various workshops about, you know, ideas around prison abolition and transformative justice, and hopefully we will make this struggle more well known in the UK.
It sounds quite interesting to combine these topics of food sovereignty and, in this case, prison system. How come?
So we feel they are really, really linked. You know, the prison industry in the UK, which some people call the prison industrial complex, is really linked to the kind of birth of like industrial agriculture and how capitalism makes us use the land. For example, one woman from the community who have been fighting the prison, she can remember when the land was farmland before it became industry. You know, so we've seen these huge changes in land use, which have been motivated by capitalism and by the accumulation of wealth, that now this kind of new pioneering edge is the prison system. So they are profiting from exploitation of prisoners, from caging human beings who, especially in the UK, are mainly working class, people of colour, queer people, immigrants, the disabled, people with mental health problems. And now it's a really profitable industry. The UK has the most privatised prison system in the whole of Europe, for example. So this camp is a way of showing resistance to this, that we will not be imprisoned, especially not for profit.
And do prisoners actually work in the fields also?
Not so much in the UK. There are a few like maybe smaller horticultural projects. However, there are two large workshops, kind of like mini factories, where they will be employing over 800 prisoners to work for local companies. And they've sold this to the area as, you know, the prison will bring so many economic benefits, because actually the prisoners are being paid maybe £7 a week or something, which is not even the national minimum wage for 1 hour, you know, in the UK.
Can you tell us more specifics also about this special prison project? You said before it is the second biggest project.
It doesn't have a name yet, but it's in Wrexham, which is a small town in North Wales. It will hold more than 2,100 prisoners. It will be run publicly, so it won't be run by a private company. However, 1/3 of all the contracts will go to private companies. So still, these companies will make like huge amounts of money from this prison. Some local people have been asking for a local prison for their community, which is, but not real local people, but local power holders, you know, local councillors and MPs have been asking for this. However, in North Wales last year, there was only, I think, maybe 700 people who went to prison in total. So, you know, it's a total lie that this prison is for Welsh people as a local prison. You know, it's an absolutely huge mega prison that will most likely target kind of poor communities in the northwest of the UK, like Liverpool and Manchester. So at the moment, they already have planning permission and they are building at the site as we speak. A campaign has been fighting against them as well to try and, I guess, encourage companies to drop the project and not work with them. So people are targeting the construction company, who are called Lendlease, an Australian multinational building firm, and other smaller companies locally who are profiting from building the prison. But it's just one prison as part of the UK government's plans to build more. So we feel it's really important that there's active resistance to it. And even if we don't stop it, we can show the government that prison building is not okay and we will not tolerate it.
Okay, so to come to a more general topic, yeah, anarchists are completely against the prison system as such, but many non-anarchists might not know why, or might think, well, there are some cases where maybe. Could you reply something to that or explain?
Yeah, prisons are really interesting, and when I often help do workshops to help people understand about prisons, and I ask them for their first memory of prison in their life, you know, maybe it's in a Disney film or a TV show or something like this. But we can really see when we do this exercise what the function of the prison system is in terms of basically controlling resistance and also intimidating like poor communities and now increasingly profiting from them. So prisons are sold as a way that we can solve social and economic problems. You know, if there is, say, crime in an area, we don't want to get to the root cause of this, which might be like poverty or inequalities of wealth. So instead, we are sold that prisons will keep us safe and that the state can punish people for us and that this is totally natural, normal and necessary. So when we introduce ideas like prison abolition, what we're really doing is, in a way, we're not even talking about prisons at all. We're saying, okay, how can we look after each other without this violence of putting someone in a cage? You know, how can we deal with harm? How can we challenge like the inequalities caused by capitalism and the state? You know, do we need prisons to solve these problems and will they ever solve them? So this is, yeah, these are the ideas we challenge. But yeah, so I guess the premise is that prisons don't solve problems. They don't get to the root causes of why people are hurting each other, you know, and they especially don't challenge things which are systematic, like patriarchy, for example. You know, if a man has raped someone, at the moment, it doesn't work that they go to prison because it doesn't meet the needs of the survivor. Most survivors experience like really disempowering experiences interacting with the police and the courts, you know, being told they're liars and it's not their fault, la la la. So it doesn't meet their needs. It doesn't make them feel safer. And this man then goes to a prison, which is a highly violent, sexist environment where people openly talk about who they will rape when they get out, you know, for example. So yeah, it's not going to transform this person who is raped. It's not going to change the culture which has created a rape culture. You know, it's not going to challenge the root causes of patriarchy. So really, it's ineffective. And the survivor is often, you know, also harmed by this process. So, you know, we're not saying there's answers to all of these. You know, they're really complex issues. And we feel like it's up to communities to decide how they will deal with harm and how they will work for accountability. And this is really difficult, obviously, because we're so kind of atomized by our economic system. You know, most people don't have a community. However, I think as anarchists, we can commit to building these infrastructures now and exploring different ways to deal with harm without calling the police, for example. So prison abolition is as much about fighting prison expansion as is about working for kind of ways to keep each other safe and build like healthy environments and healthy areas for us. So this is why it's really connected to food growing, because, you know, access to land to be able to kind of reproduce and to be able to, you know, meet our needs autonomously, this is really, really essential to creating a society where we don't need prisons. Well, we don't need them now, but, you know, really working for a society, that level of change that we need, I feel like food is a huge connector in that. Everyone has to eat. It's our basic need. So finding like radical, small scale, real needs orientated ways of producing food in like collective, empowering, horizontal ways, this can really lay the foundations, but build the soil for a totally new way of living. But if we don't challenge things like prisons now, then we will just reproduce these dynamics, you know, and this desire to punish and to, yeah, depend on the state to deal with harm. So we feel it's going to be a really exciting mix of people who are passionate about food growing and maybe anti-prison. And hopefully everyone at the camp will come with some knowledge and some experience thinking about these things in their life. And we'll hopefully create some really interesting conversations.
You already mentioned the concept of transformative justice, for example, that will be talked about in a workshop. Where can people who got interested by this interview or otherwise get more information about the camp and know how to get there?
Yeah, so all the information about workshops and programs and practical logistics can be found at reclaimthefields.org.uk. And we also want to say it is an international camp. There will be translation collective, and we really encourage people to contact us who want to contribute to the program. You know, we'd really love to hear about anti-prison struggles or food growing struggles in Germany, for example. The camp is only going to be what it is, you know, for everyone. And also on the days of action, the Tuesday and the Wednesday, we also really support decentralized actions to happen. So if you can't come to the camp, but you'd like to fight against this prison and the harm it will cause communities for, you know, 100 years to come at least, then, you know, there's details again on the website with links to different companies involved and materials to download. So hopefully, you know, we could have resistance to this prison everywhere.
Perfect. Many thanks for that.
Thank you.